bienvenue pour le 20e numéro d'En Spectateur. Oui, cela fait déjà 20 numéros que nous vous présentons des spectacles aussi différents que Les Puritains de Bellini à l'Opéra de Lyon ou Les Âmes Rouges, véritable coup de cœur signé Marielle Hubert-Cré au Théâtre Cantor dans le cadre du Festival des Cités Muses, c'était en septembre dernier, organisé par En Scène, ou encore Que faire, le retour signé Jean-Charles Masséra et Benoît Lambert au Théâtre de la Croix-Rousse. Oui, éclectisme depuis cette rentrée et un périple culturel qui vous a fait rentrer, chers visiteurs, au Théâtre Cantor, bien sûr, mais également au Théâtre de Vénissieux, à l'Opéra de Lyon, au Théâtre de la Croix-Rousse, aux ateliers, au Théâtre des Célestins et au Théâtre des Marronniers. À trois reprises et on y retourne, puisqu'on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour le 20e numéro, et après vous avoir remercié de votre fidélité, eh bien c'est au Théâtre des Marronniers que je vous emmène maintenant pour découvrir un spectacle. Prenez soin de vous, pour moi, adaptation du roman « Les fans sans balance » de François Joly et qui est mis en scène par Vincent Puységur du 6 au 18 février prochain. Et pour nous parler de ce spectacle, je reçois le metteur en scène et comédien Vincent Puységur. Bonjour.
Bonjour.
Et le trompettiste Jean Méreux. Bonjour.
Bonjour.
I wish that I were twins, you great big baby kin, for I could love you twice as much as I do. I'd have four loving arms to embrace you, four eyes to idolize you each time I face you.
Take care of you for me. Six mots, tendres, dignes et forts à la fois prononcés par une femme, Valet d'Asno, chanteuse, noire américaine et trompettiste de jazz hors pair, que l'on vient d'écouter d'ailleurs à l'instant dans un extrait de I Wish I Were Twins. Cette femme est un homme, Yosef Blumenthal, juif, qu'elle va quitter en même temps que le camp Westerfængsel au Danemark en 1942. Lui, il a survécu dans cet enfer avec le souvenir de ses mots et cette musique qu'il a appris à tirer d'un saxophone rafistolé dont on reparlera. Alors cette histoire d'amour magnifique et musicale, comme cette émission finalement, je vous promets une émission magnifique et musicale, vous êtes loin d'avoir entendu le seul morceau de l'émission, et bien cette histoire d'amour c'est le cœur du roman de François Joly, c'est surtout le début quand, dans les bureaux de la police grenobloise, et bien le commissaire Granier écoute patiemment Roland Sappé le lui raconter. C'est que récemment, eh bien, Joseph Blumenthal, dont on parlait, il aurait été assassiné, et à cause de son saxophone, justement. Alors le commissaire, Granier, il va alors tenter de résoudre cette affaire, qu'il conduit du côté des milices néo-nazis, du monde du jazz, et finalement, d'une interrogation sur ce mot très employé aujourd'hui, un peu à toutes les sauces, le devoir de mémoire. Alors c'est donc un roman de série noire, Vincent Puységur, que vous avez décidé d'adapter, et en faisant ce choix, il me semble que vous voulez aussi rendre un peu ces lettres de noblesse à ce genre et montrer que polar, c'est pas juste roman de gare.
Oui, c'est ça. La série noire ou la noire, on l'oppose souvent à la blanche, le roman classique, traditionnel. Mais la série noire a eu aussi ses lettres de noblesse au cinéma et aussi au théâtre, mais pas trop. C'est pour ça que le travail que j'entreprends autour de la série noire, c'est pour non pas avoir la prétention, bien sûr, de lui rendre ses lettres de noblesse, mais c'est de proposer au public des thèmes qui sont pas souvent abordés au théâtre. Des thèmes donc qu'on retrouve dans la série noire, qui nous offre des personnages assez particuliers, des figures et aussi des destins, mais des destins du quotidien. Ce qui m'intéresse surtout dans la série noire, c'est non pas la résolution d'une intrigue ou l'enquête policière, mais plutôt les événements de la vie auxquels sont confrontés des personnes lambda du quotidien et comment ils font pour s'en sortir. Parfois, ils sont projetés dans des drames. Ils sont confrontés à une extrême violence. Ils sont confrontés à la mort. Ils sont confrontés à des groupes qui les écrasent et quelle est l'énergie qu'il développe pour s'en sortir ou parfois ne pas s'en sortir.
Et cette énergie, elle est très proche de la nôtre. Il nous ressemble beaucoup, ces personnages de Polar. Vous dites oui. Dans le dossier de presse, c'est du côté de la vie simple que vous voulez travailler.
C'est exact.
Et du côté de la vie simple, on trouve des choses très profonde, puisqu'en fait, le personnage de Polar, il est là pour découvrir ou pour fuir la vérité. C'est quand même quelque chose de... C'est pas juste qui a tué Madame Pervenche.
C'est exact. C'est ni le colonel Moutarde, bien sûr. Exactement. C'est, j'ai toujours, quand j'étais plus petit, je trouvais que dans les tragédies, les personnes parlaient bien. C'était un beau langage.
Racine, Corneille, forcément, ça parle bien.
Bien sûr, c'est extraordinaire, c'est magnifique. J'ai toujours conservé ce goût pour le beau langage et ce goût pour le texte, bien sûr. Mais les situations, les personnages qui sont confrontés à ces situations, ce sont des personnages de pouvoir. Ce sont des personnages qui sont confrontés par leur naissance à de grands destins. Mais ces situations tragiques, on peut les retrouver, comme vous venez de le dire, dans le quotidien. Le voisin d'à côté.
Bien sûr, oui.
Et c'est ce qui est, comme le dernier spectacle que j'ai monté, Rien plus rien au monde, de Massimo Carlotto, qui raconte l'histoire d'une personne qui ne vit que par la télé-réalité et qui, ayant tué sa fille, veut qu'à la télévision vienne filmer sa confession et ça sera son heure de gloire. Son petit quart d'heure de gloire à la Andy Warhol. Ça, ces personnages, on les voit. Et malheureusement, de plus en plus.
Oui. Et c'est aussi noir qu'une tragédie de Corneille, hein, là, pour le coup, même peut-être plus, oui.
Oui, parce qu'elle nous touche, c'est direct, ça nous touche, même dans un langage du quotidien, ça nous touche directement. Alors, il faut bien sûr faire attention à tous les systèmes d'identification,
bien sûr, oui.
L'empathie qu'on peut avoir quand on voit ce genre de situation.
C'est le problème de la mimésis au théâtre, voilà.
Oui, bien sûr. Rapidement. Bien sûr, exactement.
Et vous, alors, Jean Méreux, on parle là de gens simples. J'ai envie de dire, cette histoire, c'est peut-être des gens simples sur le papier, mais c'est une histoire unique, c'est une histoire magnifique. Comment elle s'est faite, votre rencontre? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment naissent les choix des artistes? Comment on choisit de s'associer à un spectacle et de faire toute la musique sur un spectacle avec une histoire comme ça? Vous la connaissiez déjà, cette histoire de François Joly? Vous aviez lu le roman? Comment ça s'est fait,
non,
le projet?
Non, pas du tout. En fait, c'est la proposition de Vincent Puységur qui a tout déclenché.
Oui.
Je connaissais pas cette histoire de François Joly. Je connais François Joly depuis très longtemps.
D'accord,
parce qu'il il fait partie de l'équipe, du staff, même des créateurs du Festival de Jazz à Vienne.
D'accord, oui.
Que je suis beaucoup et qui parfois m'invite pour jouer dans sa programmation. Mais sinon, je ne connaissais pas énormément le travail de François Joly. Je connaissais un petit peu et depuis quand même déjà longtemps Vincent.
Oui.
Mais c'est la première fois qu'on entame une collaboration aussi aussi approfondie, parce que effectivement le texte maintenant adapté par Vincent a déclenché en moi des envies de musique, forcément.
Oui.
A déclenché pour que la musique elle entre en résonance avec la teneur dramatique, pour qu'elle entre en résonance avec toutes les évocations de l'histoire du jazz qui sont contenues dans la pièce, pour qu'elle entre aussi en résonance avec avec l'évocation de Valet d'Asnot et son destin tragique, enfin ce moment de destin tragique, parce que Valet d'Asnot, son histoire à Westerfangel, en fait, c'est quelques mois, j'allais dire. Bon, même si ces mois ont été terribles, mais ça ne l'a pas empêché ensuite de revenir aux États-Unis, et même si ma mémoire m'est fidèle, refaire un dernier concert aux environs des années 55-56. Donc, elle a continué de jouer. Elle n'est pas que trompettiste, elle est aussi chanteuse, elle est aussi comédienne, parce qu'elle a joué dans de nombreux films. C'est une artiste complète et accomplie, je dirais.
On reparlera justement de Valet d'Asnot, mais juste, j'ai envie de faire partager à nos auditeurs un magnifique cadeau que vous nous avez donné. Justement, vous parlez de ces envies qui ont été déclenchées par la demande de Vincent Puységur. Et ben, vous avez enregistré un extrait d'un morceau qui sera joué du 6 au 18 février. On écoute.
Take care of you for me.
Take care of you for me.
Alors, je vous pose la même question, Vincent Puységur, qu'à Jean Méreux. Comment s'est faite cette rencontre avec le texte? Vous avez lu le roman, c'est ça qui vous a donné envie de l'adapter?
J'ai lu effectivement donc le roman, mais dans le roman, il y a quand même quelque chose qui m'a touché profondément. C'est cette histoire de saxophone et surtout l'idée de la mémoire. Comment transmettre la mémoire et que cette mémoire soit une chose vivante. Pas une valeur morte que l'on transmet, mais une chose vivante et qui soit toujours un véhicule d'émotion et qui nous donne aussi l'envie de le désir de s'engager, pas côté militant, mais de s'engager dans ce que l'on appelle cette chose qui est, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, galvaudée, le devoir de mémoire. Parce que moi, au fond, je me sens pas réellement un devoir de mémoire. C'est pour moi une chose naturelle de se souvenir, mais d'agir aussi, oui. D'aller un petit peu plus loin.
Là, ce que vous donnez à voir, c'est pas une pièce de musée.
Non,
c'est pas quelque chose
pas.
De muséifié ou d'écrit et gravé dans le marbre. C'est le côté actif de la mémoire.
Oui, c'est le côté actif et on pose aussi qui est dépositaire de la mémoire et justement comment la transmettre. Et est-ce qu'il, parfois, quand il y a des choses horribles comme ce qui s'est passé dans les camps de concentration, comment peut-on transmettre cette mémoire sans qu'elle soit gênante? Parce qu'à force d'en parler, à force...
Encombrante, lourde...
Elle devient encombrante, lourde, et puis ça entraîne beaucoup de lassitude.
Et puis finalement, on l'écoute plus.
Non.
Et finalement, vous, la mémoire, vous avez un peu voulu la traiter dans votre pièce comme le personnage de Valet d'Asnos, dynamique, flamboyante. Et j'aimerais qu'on parle justement de cette femme. Vous avez déjà commencé un petit peu, Jean Méreux, à évoquer le destin et le parcours de cette musicienne noire américaine hors du commun. Et avant qu'on continue d'en parler, avant qu'on brosse rapidement un peu de biographie de cette femme, eh bien je vous propose d'écouter, chers auditeurs, un extrait de « You're Driving Me Crazy ». Je vous avais promis une émission musicale, chers auditeurs, je vous ai pas trompé, c'était la voix incroyable de Valet d'Asnos que vous avez entendue, une femme forte, on peut dire, Jean Méreux, et une femme qui a eu 100 vies.
Oui, mais c'était aussi une femme très très belle,
oui.
Et c'était une femme très très douée. Tout à l'heure, je disais que c'est une artiste accomplie, mais on entend dans son jeu vocal... Et puis aussi dans ses interprétations à la trompette, on entend une grande fraîcheur, un grand dynamisme, une grande énergie, un grand sens du show. On entend aussi sa filiation avec Louis Armstrong. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelait
Little Louis.
Little Louis, oui, la petite Louis de Louis Armstrong, bien sûr. Et elle emprunte, par exemple, les effets de growl dans la voix, un growl qui a rendu justement la voix d'Armstrong célèbre universellement et éternellement.
Ah oui, elle a une voix extraordinaire. Et puis vous disiez, c'est une femme, une musicienne véritablement, parce que donc elle ne joue pas que de la trompette, elle joue aussi un peu de saxo, un peu de clarinette, surtout du violoncelle, de la contrebasse, du violon, et même elle peut gratouiller, si j'ai bien compris, de la harpe, de la mandoline et du banjo. Rien que ça.
Oui, parce qu'elle est née dans une famille de musiciennes, comme
oui.
Dit sa biographie. On voit aussi des images d'elle où elle est en situation de chef d'orchestre. De conduire un orchestre exclusivement masculin, évidemment, mais elle est là en tant que femme chef d'orchestre, et je pense que dans le jazz, c'est quand même une situation assez rare.
Assez hors du commun, oui.
Enfin, surtout à cette époque-là. De nos jours, on connaît quand même, je sais pas, Carla Bley ou Maria Schneider, ou bien, enfin, on connaît un certain nombre d'orchestres qui sont conduits par des femmes, mais à cette époque-là, c'était très, très, très rare, quoi.
Oui. Avant-guerre, une femme noire américaine, un destin comme ça, c'est assez fou.
Oui.
Et elle va au Danemark pour faire une série de concerts, et là elle va se faire piéger, on va dire, par l'invasion allemande, elle va se faire trahir par la police locale, et elle se retrouve donc à Westerfangel, et c'est là qu'elle va rencontrer la deuxième partie de ce binôme, le personnage qui lui n'est pas un vrai personnage, c'est un personnage de fiction à part entière, Joseph Blumenthal. Et il a aussi quelque chose de très particulier. Lui aussi, c'est un homme fort. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette figure qui hante, puisque donc la pièce et le livre commencent par quelqu'un qui vient dire il a disparu, je crois qu'il a été assassiné.
Ce que je trouvais très chouette dans l'idée de François Joly, c'est qu'un personnage de fiction rencontre tout d'un coup un personnage de légende, et que de là naissent une belle fiction, et que dans cette rencontre, il y a la transmission d'une musique qu'il ne faut pas oublier, quand même née dans les champs de coton et née de l'esclavagisme aux USA, et que tout d'un coup, la transmission du jazz se fasse dans un camp de concentration aussi. Et on ne peut pas s'empêcher d'établir un rapport entre l'esclavagisme
une
autre forme d'esclavagisme, bien sûr. Et Blumenthal, donc ce personnage de fiction, qui est aussi un musicien, va découvrir le jazz et va, sans trop déflorer ce qui va se passer ensuite, puisque lors d'un accident, on perd l'usage de ses doigts, ne peut plus jouer du piano, donc il va récupérer un vieux saxophone tout cabossé qu'il va rafistoler.
Et d'ailleurs, sur l'affiche, le saxophone, il est complètement brisé.
Cassé. Oui, brisé. Il est cassé. Mais malgré tout, de cette chose qui a été reconstituée avec des... pas des morceaux humains, mais des éléments de personnes mortes, pour faire les tampons en feutre avec les cheveux détendus, comme il est écrit dans la pièce, et d'autres petites choses pas très agréables, va sortir une musique, et une belle musique.
Et on le voit, c'est complètement symbolique. C'est plus qu'un instrument de musique.
C'est un témoignage. C'est un témoignage vivant que certaines personnes, que certains groupes veulent détruire pour effacer de la mémoire, justement. Et peut-être que le personnage de Granier, qui vient raconter cette histoire, se pose la question. Et peut-être est-ce là aussi la seule action qui nous reste, ne pas oublier.
Et c'est un côté assez incroyable de cette histoire. Une musique qui naît comme ça dans les camps de concentration, dans un endroit qu'on croyait infernal, il y est possible d'avoir de la musique, de la poésie. Vous, en tant que musicien, Jean Méreux, quand vous avez découvert cette histoire, vous avez dû être touché par cette situation. Dans l'enfer, sort une musique.
Oui, mais souvent, de belles musiques naissent de situations complètement dramatiques, à commencer par le blues. Et bien sûr, on n'oublie pas qu'au moment de la déportation... de nombreux musiciens d'horizons très très différents d'ailleurs se retrouvent dans les camps de concentration, et par exemple c'est là que Messiaen crée son quatuor pour la fin des temps, et puis il y a de nombreuses compositions maintenant qui refont surface de musiciens classiques, compositeurs internés, et qui là dans cet enfer du camp vont créer des quatuors à cordes, des opéras, vont créer plein de choses qui sont à la fois très très belles et très touchantes aussi, parce que s'y ajoute une dimension comme ça, cette dimension dramatique, quoi. Et c'est pas étonnant donc que le jazz se retrouve aussi, bien que moi je n'en ai pas entendu beaucoup parler. J'ai beaucoup entendu parler du jazz à l'époque de l'occupation, le jazz à Paris par exemple à l'époque de l'occupation, mais très très peu de la présence du jazz dans les camps de concentration.
Et pourtant c'est une anecdote que François Joly emprunte à Georges Semprin. Il a eu l'occasion de le rencontrer, et c'est Georges Semprin qui lui racontait cette anecdote qu'on trouve dans nombreux de ses livres, notamment dans L'écriture ou la vie. Et puisque c'est le 20e numéro dans Spectateur, et qu'il se trouve que Georges Semprin est mon écrivain préféré, je n'hésite pas à me faire un petit cadeau à mon tour et à lire du Georges Semprin pour vous montrer qu'effectivement, il y avait du jazz à Buchenwald. J'avais encore d'autres projets pour cette journée qui commençait, dont je guettais paresseusement les rumeurs allongées sur ma paillasse dans un dortoir du bloc 40. Gérizac m'avait annoncé qu'ils allaient faire une séance de jazz comme ça, sans raison, pour le plaisir, entre eux, les musiciens de jazz que Zach avait rassemblés ces deux dernières années. Lui-même tenait la batterie. Au saxo, il y avait Markovitch, un Serbe vraiment doué. Le trompettiste était un Norvégien carrément génial. Quand il jouait Stardust, il nous donnait la chair de poule. Les SS, bien entendu, ne connaissaient pas l'existence de l'ensemble de jazz, dont les instruments avaient été récupérés illégalement au magasin central, les Fechtenkammer. Il faut dire que les vieux communistes allemands n'aimaient pas non plus cette musique barbare. Mais on ne leur avait pas demandé la permission de créer ce groupe de jazz. Ils subissaient Bougon. Voilà, donc ça c'était mon petit cadeau pour vous.
Parce qu'il y a un bel écho avec
ce qui est écrit dans la pièce.
Ah oui, tout de suite, quand j'ai vu le scénario, j'ai pensé à ça. En plus, François Joly le dit lui-même que
exactement,
c'est... donc j'ai cherché et j'ai retrouvé assez rapidement dans ce livre que je connais très bien. Alors justement, à Buchenwald, c'est la naissance de cet instrument, le saxophone, brisé, raccommodé. Et vous avez, Jean Méreux, la lourde tâche de faire vivre ce saxophone et de faire vivre cette mémoire, de la rendre active. Alors, avant que je vous fasse parler de votre travail de composition musicale, un autre cadeau, le deuxième extrait d'un autre morceau que vous avez enregistré dans notre studio.
Tema Valeda.
Ce magnifique morceau, merci. Quand vous avez eu cette proposition, qu'est-ce que ça a déclenché ? Vous parliez d'envie tout à l'heure.
Le travail s'est fait à la table et d'une façon très patiente, comme ça, très, très lente et selon la lecture, les ambiances que ça pouvait créer me venait telle idée de mélodie, mais de mélodie existante,
oui.
Ou bien l'idée de créer justement quelque chose pour cet instant-là.
Et il y a un côté assez mystérieux à la création, alors je vous ai en face. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est comme ça ? Vous prenez un verre d'eau et hop, illumination ?
Alors, j'ai toujours beaucoup aimé les sollicitations,
oui,
provenant des autres formes artistiques. Que ce soit la littérature, que ce soit la peinture, que ce soit le cinéma. Et j'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça. Mais une expérience, je crois, assez privilégiée par rapport à l'écriture. Et dans cette écriture, de toute façon, comme je le disais, il y a des évocations de l'histoire du jazz et tout ça. Donc, il y a les évocations, bien sûr, de Valeda Snow.
Oui.
Il y a la teneur dramatique de la pièce. Et c'est ça qui finalement, a provoqué, m'a soufflé, m'a inspiré comme ça. M'a inspiré des mélodies, m'a inspiré des choses. Mais tout en sachant que ces musiques ne sont pas uniquement ne sont pas composés tout à fait et totalement pour la pièce, puisque il y a des reprises dans ce travail-là, et justement, ce sont peut-être des reprises qui ont à voir avec la mémoire du jazz.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'on se permet de commencer avec, je sais pas, l'univers, admettons, de concentrationnaire d'un camp de travail en Alabama, par exemple, ou bien dans des champs de prisonniers en Alabama, les champs de coton, les marches funèbres de la Nouvelle-Orléans, le swing de Valeda Snow, et puis après tous les signes que j'adresse à des musiques que j'ai énormément aimées dès mon adolescence, et qui sont les musiques du bebop et les musiques du hard bop et les musiques de Thelonious Monk et les sonorités de Miles Davis, et puis aussi les musiques que j'entendais venant illustrer les films noirs français ou américains de la fin des années 50 et du début des années 60.
Alors c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on voit l'amplitude de votre travail, et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on voit que il y a une double mise en abîme. La musique, c'est le vecteur de la mémoire, mais c'est aussi votre mémoire à vous,
oui,
puisque
bien sûr,
c'est votre mémoire personnelle.
Oui,
vos
puis
goûts.
Oui, et puis la mémoire du jazz, parce
la
que je m'intéresse
jazz,
vraiment
aussi,
au jazz et à toutes les époques du jazz, même si là, l'époque contemporaine est un petit peu oubliée. Mais moi j'ai une prédilection en particulier pour les compositions de Barney Whelan. Que Barney a pu faire pour des films comme Les Liaisons Dangereuses, ou bien Témoins dans la ville, ou bien Des femmes disparaissent, des choses comme ça. Et puis évidemment, la grande référence à Miles Davis et à sa musique pour Ascenseur pour l'échafaud, quoi.
Bien sûr,
parce qu'on est dans une situation aussi de pièce policière, quoi.
Oui, c'est ça, il faut pas oublier, c'est le cadre.
Il y a un univers.
Voilà, il y a cet univers-là, et Et donc la trompette façon Miles Davis, avec la sourdine qu'on appelle la Harmon Mute, ça rend complètement cet univers-là. Et en plus, ça permet une sorte de route parallèle à la route du texte. Et au travail des acteurs.
Et c'est vraiment une collaboration parfaite. Et pour montrer un exemple de cette collaboration et de cette musique dont vous parlez vraiment avec une passion magnifique, eh bien, un autre extrait de notre cadeau que vous nous avez donné.
Funeral.
Alors, effectivement, Jean Méreux disait oui, parce que quand même, il y a une trame policière. Oui, on a parlé de Vallée d'Asno, on a parlé de Blumenthal. Il faudrait peut-être parler du commissaire quand même.
Mais c'est le personnage qui s'inscrit dans le présent, parce qu'on parle de la mémoire, le passé, et ensuite on a un futur, bien sûr, mais là c'est le présent, c'est le seul personnage qui est dans le présent.
Le commissaire Granier.
Commissaire Granier, et sur qui tombe cette histoire. Et il n'en a pas envie. Il est, comme beaucoup de personnes, c'est cette période, une certaine lassitude. Mais petit à petit, parce que quand même, le personnage de Sapé qui vient lui raconter son histoire insiste, car il veut replacer les choses dans leur contexte et chronologiquement. Donc il part de l'histoire du camp de concentration jusqu'à nos jours, pour arriver à cette histoire donc d'assassinat. Et ce commissaire Granier a la patience, bien sûr, de l'écouter, et il va être touché, mais pas dans sa fonction de policier, mais plutôt personnellement. Alors, la motivation profonde, elle lui appartient, je ne la mets pas en évidence, mais il va agir et résoudre cette chose, cette enquête, cette quête personnelle, mais pour son propre compte.
Oui, parce qu'il y a à la fois le côté enquête policière, voilà, qui est derrière l'assassinat, mais en même temps, il y a des quêtes de vérité.
Ce sont plus, oui.
C'est ça, c'est comment on fait pour gérer cette mémoire lourde? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est tous dépositaires de cette mémoire, ou est-ce qu'elle appartient qu'aux victimes? Et comment on la transmet? C'est tout ça qui lui arrive en pleine figure à ce pauvre commissaire.
Non seulement par la bouche de Sapé, mais en plus par la bouche après de Madame Blumenthal, qui elle, bon, est représentante de sa communauté, qui va lui reprocher de se mêler d'affaires qui ne le regardent pas.
Et c'est ça, oui.
Donc ça le fait beaucoup de choses pour un seul homme, mais malgré tout il va continuer à avancer et résoudre cette enquête, bien sûr, mais elle n'est pas montrée, cette enquête, c'est pas ça le c'est derrière, c'est pas dit, c'est appartient au non signifié, c'est raconté à un moment donné, voilà, c'est tout.
Et d'ailleurs, pour bien figurer ça sur le plateau, on n'est pas dans le jeu de Cluedo avec la cuisine,
non,
le salon,
non,
vous avez choisi une atmosphère très épurée.
Une atmosphère très épurée, ça a été le travail de Célia Guilmer-Langlois, qui a fait donc la scénographie, et aussi qu'on retrouve avec l'éclairage par Philippe André qui va faire les éclairages, et aussi la création vidéo d'images, de projection d'images de Pierre Jacob, pour la difficulté, résoudre cette difficulté déjà de l'unité de lieu, de temps et d'action, parce qu'il y a plusieurs, on est dans plusieurs lieux, mais surtout le lieu de la mémoire.
Oui, c'est ça, le lieu intime.
Le lieu intime, donc on est plus dans un espace mental, mais sans qui apporte du jeu, quoi, qui est une présence physique. Et le fait de modifier certains, je vais pas tout dévoiler parce que c'est quand même aussi une surprise, on a aussi le côté mémorial.
Bien sûr.
On a le côté mémorial, on a le côté musée, mémorial, qui tout d'un coup s'ouvre par la manipulation des acteurs. Célia a travaillé sur la mémoire, a travaillé sur la trace, sur des monuments africains, sur les ancêtres.
D'accord.
sur ces, toutes les populations, sur les disparus. Et donc on est parti sur ces bases-là pour créer cette scénographie.
Une scénographie donc qui donne envie, voilà, parce qu'il y a un peu de mystère, et je vous propose, ben, chers auditeurs, de les découvrir du 6 au 18 février au Théâtre des Marronniers. La pièce, c'est « Prenez soin de vous pour moi ». Jean Méreux et Vincent Puisseguer. Vous serez donc sur scène, Jean Méreux à la trompette. Vincent Puisseguer, vous êtes aussi comédien. Vous jouez Sapé. Oui. Sur scène, vous serez aux côtés donc de deux autres comédiens et comédiennes, Nicole Mouton et Alain Bert. Alors on cite également, on les a un peu évoqués, mais à la scénographie, Célia Guinemer-Langlois, à la lumière, Philippe Andrieux, et pour les univers sonores, Gilbert Gandil. Alors merci à vous deux d'être venu vous prêter au jeu de l'interview au micro dans Spectateur. Merci à Xavier également à la technique qui vous permet d'avoir, chers auditeurs, des émissions de qualité sonore et bien parfaite. Alors on lui dit merci pour sa disponibilité et pour son professionnalisme. Merci enfin à vous, chers auditeurs. C'est la fin de ce 20e numéro dans Spectateur. Je vous avais promis qu'il soit musical, il l'a été. Je vous réserve une petite surprise pour la toute fin. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour le 21e épisode consacré aux critiques de cette pièce, Prenez soin de vous pour moi, et également de Matin et soir, une pièce que nous vous présentions la semaine dernière, qui est mise en scène par Quentin Rioual les 5, 6, 7 et 9 février en Théâtre Cantor, en partenariat avec En Scène, bien sûr. D'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma, bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur. Et on se quitte avec un extrait de The Mood I'm In de Valet d'Asno, et chers auditeurs, Take care of you for me.
Never dare to have your arms around me, not that I consider it a sin, but tonight I want your arms around me. It's the mood that I'm in.